بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفر الإسلام نغمس الله رب العزة qui nous donne la possibilité de nous réunir dans une assemblée bénie par Allah, une assemblée sur laquelle la rahma, la bénédiction d'Allah, la sakina, la tranquillité descend. Une assemblée qui est recherchée par les malaïka, une assemblée qui est recherchée par les anges, qui réellement rapporte à Allah Azza wa Jal le nom de chaque individu, le nom de chaque croyant qui était présent dans une assemblée, parmi les assemblées religieuses, dans toutes les mosquées, les médiasas, dans toutes les majlis du monde entier. N'importe quelle personne qui se réunit, des groupes qui se réunissent pour parler de la grandeur d'Allah, du dîn d'Allah Azza wa Jal, du Coran, de la Sunna, c'est-à-dire comme notre assemblée, ce sont là des assemblées qui sont ciblées par les malaïka, qui recherchent ces majalis qui ont été qualifiés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des jardin du paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit en ce sens que si vous passez près des jardins du paradis, prenez votre temps, asseyez-vous, profitez de ces jardins. Et l'explication des jardins du paradis, c'est quoi? C'est les majalis ou dhikr, les assemblées où on parle d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est déjà là un ni'ma, un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal de nous accorder cet honneur d'être présent dans une assemblée religieuse. Et la dernière fois, on avait fait un petit récapitulatif concernant une qualité essentielle qui était présente chez trois des premières catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyamah. Ces personnes qui, le jour des comptes, se distingueront du reste de la création. Je suggère qu'on s'approche un petit peu. Au moins la voix ne se perd pas, parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier. Au moins ça ne perturbe pas la salat des gens. Barakallahu fikum. Donc on disait qu'on avait évoqué la dernière fois quelques qualités propres à ces personnes. On avait revu l'histoire, le cas du roi juste. On a vu comment il est difficile de faire preuve de justice et d'équité. Et très peu de dirigeants, très peu de rois, très peu de amirs, très peu de responsables peuvent se vanter d'être ou peuvent même avoir la conscience tranquille qu'ils ont été justes, qu'ils ont fait preuve d'équité dans toutes leurs décisions. Celui qui arrive à le faire aura sa place, inshallah, sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. On avait vu également que parmi ces personnes donc qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyamah, il y a cette personne, alors si on retrouve la deuxième catégorie, ce sera ce jeune qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et on avait vu que pour qualifier un jeune, pour dire que cette personne-là a passé sa jeunesse de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, on avait dit que ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelqu'un qui va être emprisonné, enfermé dans une mosquée et faire uniquement les bonnes œuvres. Non, c'est quelqu'un qui va vivre normalement. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam dans notre hadith avait dit que la personne qui vit avec les gens et qui supporte donc la fréquentation avec les gens a plus de valeur que celui qui s'isole. Je répète, celui qui vit avec les gens. Et quand on vit avec les gens, ça veut dire qu'il faudra faire preuve de patience face aux excès de comportement. Parce que quand on est tous ensemble dans une même cité, dans un même appartement, dans un même quartier, dans une même salle, d'accord, il y a des caractères différents. Il y en a qui ont un caractère un peu spécial, il y en a qui sont plus doux, il y en a qui sont plus, je sais pas moi, un peu jaloux, il y en a qui sont coléreux, et ainsi de suite. Bref, les caractères sont différents. Maintenant, celui qui vit avec les gens, qui fréquente et qui sait adopter le bon comportement avec tout le monde, cette personne-là a plus de valeur que celui qui va s'isoler. Parce que celui qui va habiter dans un endroit isolé, il rencontre personne. Il fait certes l'ibadah, l'adoration d'Allah, il prie, il jeûne, il fait le dhikrullah, il lit le Coran, mais il n'a aucun rapport, aucun contact humain avec les gens. Ben on va dire qu'il a perdu une occasion unique d'obtenir des récompenses. Il a perdu l'occasion d'alourdir sa balance, son mizan et hasana, sa balance de bonnes œuvres. Pourquoi? Tu peux répondre. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Athqalu shay'in fil mizan » La chose la plus lourde dans la balance au jour de Qiyamah, c'est « Al-khuluqul hasan » Le bon comportement. Si vous vivez seul, vous aurez un bon comportement avec qui?
quand vous brossez les dents dans le miroir, vous allez être correct envers vous-même. Celui qui s'isole, qui se dit que moi, m'y maille pas avec personne, d'accord ? C'est un choix, on respecte ce choix, mais il perd l'occasion d'avoir une action qui pèsera extrêmement lourd dans la balance, car le prophète m'a dit, le hadith qu'on a cité deux fois, la chose la plus lourde dans la balance au jour de Qiyama, c'est le bon comportement. Et ça, c'est très important, mes chers frères. Il y a des fois où on pense que le bon comportement, c'est uniquement « Salam alaikum, ça va, le bien, famille, ça va, tout va bien, vous avez quelque chose, ok. » Le sourire, c'est vrai, le sourire c'est une sadaqa, tout ça, ce sont de bonnes choses. Mais on a l'impression que ça se limite à ça. C'est bien, c'est une partie du bon comportement. Le bon comportement, on va voir également dans l'autre catégorie, les gens qui s'aiment pour Allah. Et quand on dit « s'aimer pour Allah », ce n'est pas uniquement… L'amour, mon frère, je t'aime, la fraternité, tu es dans mon cœur, et ainsi de suite. Ce n'est pas uniquement des paroles, c'est également les efforts, le geste, c'est le ta'awun, c'est l'entraide, c'est la fraternité réellement. Et on va voir, je ne sais pas si on pourra voir ça aujourd'hui, il y a l'opinion de grands tabi'in qui disent que je ne peux pas dire à mon frère, « Oh mon frère, tu es mon frère en Allah, je t'aime pour Allah », alors qu'il meurt, qu'il n'a rien à manger. Alors qu'il est dans la difficulté, moi je ne fais rien pour l'aider. Il dit que ça c'est complètement incohérent. Je ne peux pas affirmer mon mahabba, mon amitié pour quelqu'un, alors que je sais qu'il est dans la difficulté, mais je fais comme si que je ne vois pas. Je fais comme si que je ne vois pas ses problèmes. Ça va aller bien ? Quand il parle de problème, ah bon, il y a un rendez-vous très urgent, et donc on se retrouvera plus tard. Ça c'est le vrai akhlaq du croyant, c'est le mahabba, dire que je t'aime en Allah, mais également venir en aide à son prochain quand il est dans une difficulté. Le prophète dit que celui qui vient en aide à son prochain dans une difficulté de ce dunya, Allah Azza wa Jalla lui viendra en aide dans une difficulté de l'au-delà, de l'akhira. Et est-ce qu'il y a besoin de faire un dessin pour comparer les difficultés du akhira avec les difficultés de ce monde? Non, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Tout le monde comprend que quand on parle d'un problème dans l'au-delà, il y a quelque chose qui coince. Waouh! Au niveau de la balance, ça coince. C'est un problème, oui, non. Vos actions ne sont pas suffisantes. Au moment de passer le sirat, vous tremblez, je dis, c'est moi qui m'avance. On n'avance pas correctement. Et si dans ces moments-là, Allah vous vient en aide, c'est pas un soulagement énorme, ça? L'enjeu là-haut, c'est quoi? C'est le jahannam ou le jannah? C'est-à-dire la réussite ou la destruction. Alors qu'ici, tu viens en aide à ton prochain, il est dans une difficulté, il a besoin soit un coup de main financier, soit un soutien moral, soit de venir l'aider physiquement, ou marquer sa présence pour quelque chose, aider son prochain, c'est ça, aimer son prochain en Allah. Donc on revient, ce qu'on disait, que beaucoup de gens pensent que le bon comportement, c'est uniquement sourire et avoir un comportement de façade correct. Mais cette même personne qui vous parle correctement, tape la main dans le dos, regarde, ça va, tu vas bien. Par derrière, je dis ça, Mahma, il est comme ci, comme ça, je l'ai vu, je connais sa famille, ça c'est des gens qui sont comme ça, ainsi de suite. Est-ce que ça c'est le khuluqul hasan, ça? Ça s'appelle comment, ça? Il y a différents termes. Alors là, il y a un catalogue de choix. Comment on peut appeler ça? Hypocrite, comment on dit en arabe? Munafiq, nifaq, l'hypocrisie. Comment on peut appeler ça encore? Il y a un terme plus précis. Non, oui, il y a riba, il y a bohtan, il y a namima. Colporter, médisance, qila waqal, c'est colporter justement. Qila waqal, c'est l'adi la fille, c'est bien traduit. D'autres choses, dhul wajhain. Non, dhulma, c'est l'obscurité. Dhul wajhain, deux visages. Devant toi, mon frère, tape là. Derrière toi, tape là dedans. C'est comme ça. Mes chers frères, est-ce que le dunya ne fonctionne pas comme ça très souvent? Illa mar rahmallah. Sauf ceux qui ont eu la sincérité dans leur cœur. Allahu Akbar. Dernièrement, j'étais dans un mariage, d'accord? Une personne m'a dit, arrête de réfléchir, tu penses à quoi au travail, là? J'ai dit, non. J'ai dit, j'ai pas dit à quoi je pensais. J'étais en train de penser, je regardais plein de gens, je me dis que, subhanallah, sans cibler des personnes, le nombre de gens qui, devant toi, ils sont prêts à sourire, à te faire salam, à parler correctement, et parler, te poignarder, sans problème. On arrive parfois à une situation de psychose, qu'on ne fait plus confiance à personne. Mais il ne faut pas arriver à là, Mais il y a des fois où... D'accord? Donc, la solution à tout ça, c'est d'avoir un cœur pur, un qalbun salim, un cœur sincère. C'est-à-dire que quand tu vois ton prochain, là, tu éprouves vraiment muhabba pour lui. Et qu'est-ce qui fait que j'aurai la sincérité dans mes relations avec les gens si cette relation est basée sur l'amour pour Allah et pas pour autre chose? Par exemple, mon frère s'appelle, je ne sais pas, Salim ou Imran ou Ibrahim. D'accord ? Je sais très bien qu'il a des défauts. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui n'a pas de défaut. Donnez-moi le nom d'une personne. Dites. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bonne réponse. Le temps d'hésitation était grave. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Basse. Est-ce qu'à part lui, il y a un être humain qui n'a jamais péché, jamais fait d'erreur, qui avait zéro défaut ? Même les sahaba, il y a des fois où il y avait des problèmes entre eux, des petites querelles ou des problèmes, ils ont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour régler le problème. Ça restait des êtres humains. Ils restaient, c'était les meilleurs des hommes, mais avec des caractères. Et heureusement qu'ils avaient ce caractère humain. S'ils étaient parfaits, ça aurait été un modèle impossible à suivre. Donc, subhanallah, qu'est-ce qu'on disait là ? On était remonté un petit peu loin. Oui, quand je fréquente Mohammed, Bilal, Ishaq, Imran, d'accord ? Je connais pertinemment que il y aura toujours un aïb, un défaut chez la personne. Ça peut être un fundi, un alim, un sheikh, un mufti, hafid al-Quran, imam. Peut-être l'imam fait plus de péchés que vous. Certainement, je cumule plus de péchés que vous, qu'Allah nous pardonne tous. Mais tu sais que c'est un être humain. Ton ami, c'est Ibrahim, c'est Ishaq, c'est pas Mikaïl, Djibril, c'est pas Israël, c'est pas Ridwan, c'est pas. Bah, il y a des Ridwan aussi ici. C'est pas Malik al-Maut que tu fréquentes. C'est pas des anges qui, la ya'asun Allah ma amarahum, qui ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jal, et qui sont parfaits dans tout ce qu'ils font. Non, ce sont des hommes, des êtres humains. Et à propos de ces mêmes êtres humains, Allah Ta'ala dit « Kullu bani Adam khata'un » Tout être humain est pécheur. Et les meilleurs des pécheurs, ce sont les tawaboun. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla, dans sa perfection, il reconnaît que l'être humain est pécheur et commet des erreurs. Mais Allah Azza wa Jalla, il est tellement Rahman Rahim, clément miséricordieux, qu'il ne va pas nous éloigner à cause de nos péchés. Non. « Wallahu ya'khidhu Allahu an-nasa bima » Bima حافظ القرآن بما كسبوا si je me trompe pas ou taraku بما كسبوا oui ما ترك على ظهرها من دابة si Allah devait sévir en ce sens chaque personne chaque être vivant pour ses erreurs il n'y aurait plus une créature vivante sur la terre verset du Coran et dans le hadith prophète dit que tout être humain est pécheur les meilleurs des pécheurs ce sont les tawaboul ceux qui demandent pardon c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla de sa clémence il ne nous punit pas à cause de nos péchés. Mais il reconnaît l'erreur de l'homme. Il dit que parmi ces gens qui font ces erreurs, les meilleurs ce sont ceux qui savent demander pardon. Il y a qu'Allah accepte le tawbah. Maintenant, nous, qui sommes-nous pour refuser un manquement de le caractère de notre prochain ? Donc, si je fréquente Abdullah Ishaq Mohammed et je vois quelque chose qui me déplaît, tout de suite je veux m'éloigner de lui ou je vais commencer à faire riba buhtan, à critiquer, ça veut dire que je n'ai pas de rahmah dans mon cœur. J'ai pas de pitié de clémence dans mon cœur pour mon prochain. Et que ma relation avec lui, c'est basé sur son apparence, sur ce qu'il peut m'apporter, mais c'est pas une relation pour Allah. Parce que la relation pour Allah, c'est basé sur la ilaha illallah. Et tant qu'il a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans son cœur, c'est mon frère en islam. Même s'il fait des péchés, même s'il a accompli des erreurs. Et au contraire, moi je vais l'aider dans ses péchés. Comment est-ce que je vais l'aider dans ses péchés ? Al-amr bil ma'ruf. Je vais l'encourager à faire de bonnes œuvres. Je le fréquente. À l'heure de la salat, j'essaie de le ramener avec moi à la mosquée. Il ne fait pas la prière. Je me dis, ah, il ne fait pas la prière, je ne le fréquente pas. Vous savez, ça va comme ça. Je dis, ah, Sabenga le quartier, la rocade, je ne sais pas quoi, maïpa exote, hein. Sabenga, il y a un professionnel, ça. Oui, mais Harry, si tu ne le fréquentes pas, excusez-moi, elle m'a dit la rocade, hein, parce qu'on a des problèmes à drasse avec la rocade. D'accord ? Donc, si vous ne fréquentez pas le marmaille du tout, vous dites, Saben Kanya, ça ne fréquente pas. Mais qui c'est qui va l'inviter vers le haqq ? Qui c'est qui va l'amener au moins une fois salat ? Qui c'est qui un jour, il voit une bouteille d'alcool à la main, il dit, Akhi, crains Allah, tu es musulman, tu as la ilaha illallah dans ton cœur. Le prophète me dit, celui qui goûte au vin de ce dunya, à l'alcool de ce monde, ne boira pas le vin de l'au-delà, le vin du paradis, qui est exceptionnel. Réfléchis, combien de temps ça va te procurer du plaisir, hein, tu vas avoir un peu de, je sais pas, sensation, tu vas être saoul, ainsi de suite. Mais après, tu es dans le péché, hein, si Malik al-Maut reprend ton âme. Et tu sais que l'homme, quand il meurt, selon sa situation, il est ressuscité de la même façon. Tu es prêt à te présenter devant Allah avec la bouche qui pue la bière, saoul. Imagine une seconde si ça t'arrive. Puis essaye de faire comprendre la personne sans l'attaquer, hein, sans lui dire, t'es une espèce de farcique, de kafir, toi tu vas cramer dans l'enfer, je te vois déjà là-haut. Malik qui va te détruire. Non, akhi. Wassam n'a jamais parlé de cette façon, Zahaba. J'exagère, hein. Je veux dire que il y a des gens qui sont comme ça aussi, hein, c'est une parenthèse, hein, qui vont trop fort. qui n'arrête pas d'accabler les gens, de tirer les défauts, du vous êtes comme ci, comme ça. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضَّوْ مِنْ حَوْلِكَ. Allah, Allah, Allah. Ça, ça parle du Prophète sallam. S'il avait agi, j'ai pas la traduction du verset, mais si son comportement était rigoureux, trop rigide avec les sahaba, il se serait éloigné de lui, il n'aurait pas accepté sa mission. Alors que c'était les meilleurs, ceux qui étaient censés devenir les meilleurs des hommes après les prophètes. Mais il fallait toucher leur cœur. Il fallait une approche correcte avec le bon comportement, avec Al-Hikma, Oudu ila Rabbika. Reprenez-moi, Oudu ila Sabili Rabbika. Fin de journée là. Oudu ila Sabili Rabbika bil-Hikma wal-Mu'idhati al-Hasana. Wajadilhum billati hiya ahsan. On commence toujours par Al-Hikma, par la sagesse. Donc, comment est-ce que je vais aider mon prochain dans ses péchés? En essayant de le ramener vers le droit chemin et en essayant de le convaincre d'arrêter, ça c'est mal, et ainsi de suite. Avec la conviction que la hidayah est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Et que la seule chose qui est imposée sur l'être humain, c'est « ma alayka illal balagh » la propagation, dire. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, combien de fois il a essayé d'inviter son oncle Abu Talib bien l'islam, jusqu'au gharghara, jusqu'à l'agonie, il dit « Oh, mon oncle, dis la ilaha illallah, dis bas, la ilaha illallah, le reste, je m'en charge au jour de Qiyam. » Pas accepté. Est-ce que ça veut dire que sa da'wa, est-ce que ça veut dire que sa da'wa n'était pas assez forte? Non. Abu Lahab, son oncle, Abu Jahl, toutes ces personnes qui ont fréquenté, qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont vu grandir, qui l'ont vu devenir prophète, qui ont vu évoluer et ainsi de suite. Ils n'ont pas eu iman. Combien de fois le prophète alayhi salatu wassalam a essayé de les inviter vers le droit chemin? C'est-à-dire que la guider, ça ne dépend pas de ce qu'on va faire. L'effort doit être fait, puis la guider, c'est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dites-moi, quel effort le prophète a fait sur lui pour qu'il accepte l'islam? Dites-moi, c'était quoi l'effort? Une lettre? Une visite? Attendez, mais vous connaissez les histoires, laisse réfléchir. Une lettre? Une visite, ziyara, il a envoyé une délégation. Oh Allah, renforce notre dîn par une de ces deux personnes. Umar ou alors Abu Jahl, si je ne me trompe pas. Hein? Abu? Comment? Son oncle lequel? Hamza? Ben, c'est même mon frère. Non, Hamza était déjà converti. Allez, on vérifiera, mais je suis quasiment sûr que c'est Abu Jahl. Et doa, il n'y a pas eu l'effort. D'accord? Et Allah a donné la guidée à Umar ibn al-Khattab. Il rencontre quelqu'un, il a une mauvaise intention à la base, et cette mauvaise intention se transforme en guidée. Vous voyez donc, ce qu'on voulait dire, c'est que fréquenter son prochain, même si c'est quelqu'un qui est dans l'erreur, et ainsi de suite, on peut lui être profitable. Et ça, ça revient vers le bon comportement, le khuluq al-hassan. Donc, pour revenir, cette personne qui, subhanallah, il va fréquenter les gens, il va avoir un bon comportement avec son prochain, il sera peut-être un motif de guider pour lui, pour son prochain. Parfois, il suffit d'un geste, d'accord? Vous êtes en train de jouer au foot, là, le terrain, je sais pas, à droite, à gauche, ici, là. C'est l'heure de Asr, d'accord? On est samedi, Salat al-Asr, 17h, d'accord? Si vous n'avez pas la possibilité de venir à la mosquée, ne serait-ce, il y a des robinets partout, d'accord? Quelques, mashallah, multazim, des gens qui font bien leur salat, ils font leurs ablutions, et ne serait-ce qu'ils font leur salat sur le terrain. Même s'ils ne veulent pas prendre la tête des autres, qui eux ne viennent jamais à la mosquée. Mais le simple fait de voir, qu'ils vont voir la personne faire leur salat sur le terrain, c'est déjà une da'wa. C'est déjà un geste que vous avez fait. Donc, celui qui va rester éloigné des gens, il va payer tout ça. Ces moyens de da'wa, de guider, de être un moyen pour que quelqu'un retourne vers Allah Azza wa Jal. On a vu le hadith que quand quelqu'un, imagine cet homme de le désert qui perd sa monture, l'eau, la boisson, la nourriture, la boisson, il perd tout, il va peut-être mourir de faim, de soif, déshydraté. Un instant après, il s'assoit sous un arbre, il attend la mort. Il sait qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il voit venir au loin? Son chameau, qui s'était enfui et qui revient. Comment il est tellement content qu'il en perd ses mots. Je veux dire qu'il en perd son latin, il en perd son arabe. D'accord? Et il dit... Oh Allah, merci, tu es mon serviteur et je suis ton créateur. Il inverse. Tellement il est heureux. Le hadith, il dit ça. Hein? Il inverse. C'est comme quelqu'un qui perd la tête de joie. Ça veut dire quoi? Être fou de joie? C'est exactement ça. C'est une deuxième chance, une deuxième naissance. Il dit que, voyez comment cet homme est euphorique. C'est l'euphorie, ça. C'est plus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allah est encore plus content quand quelqu'un s'est éloigné de lui, qui revient. C'est à nous qui ça, nous pour juger que le gars la rocade des pieds du, ou que le gars, je sais pas, comment appelle Ben Kartimoufia, là, Olaf Libustier, je sais pas quoi, Saben Rakaï. À nous, qui sommes-nous pour déterminer que le gars Camélia, ça, il sert à rien, les oiseaux, Saben Piedu, Ben Drogué, ainsi de suite. Ces gens-là, quelqu'un qui revient vers Allah, Allah est plus content que l'exemple donc de cet homme dans le désert. Maintenant, là où on veut en venir, on veut venir, si moi je suis un intermédiaire pour que cette personne-là revienne vers Allah, n'est-ce pas là une action magnifique? N'est-ce pas là une action extraordinaire? Si Bilal a été l'intermédiaire pour qu'un jeune qui s'était éloigné du din, qui sombrait dans l'alcool et ainsi de suite, tout d'un coup il revient vers Allah Azza wa Jal. Comment est-ce qu'Allah Rabbul Izzah est content de ce retour vers lui? Et comment est-ce qu'Allah sera satisfait de celui qui a été un intermédiaire pour que quelqu'un, un serviteur, revienne vers Allah Azza wa Jal? Tout ça, ça peut s'acquérir en fréquentant les gens. Et donc, on est revenu, on a retrouvé le fil. Allah nous donne la possibilité de retrouver le fil. Ce jeune, Shabun Nasha'a fi ta'atillah, qui grandit de l'obéissance d'Allah, c'est pas ce jeune qui va s'enfermer dans les mosquées. Va dire Mutawalli Sam, remplaçons Mutawalli, ferme toute la porte. Laisse ben jeune là dedans, laisse pas de sortir la fitna dehors. Comme des poissons dans un aquarium. Mais le poisson dans un aquarium, là, le petit poisson rouge, le, je sais pas comment il appelle, squarelle, je sais pas quoi, hein, il est né dans l'aquarium, machin là. Il ne connaît rien, lui, de la vie. On met un coup dans la mer. Il rencontre un requin, il rencontre un... Il ne sait pas le danger. Et ainsi de suite. Quelqu'un qui reste que dans l'environnement protégé, khair wa ni'ma. Mais le jour où il est exposé à un danger, il ne sait même pas c'est quoi le mal, le danger. Et nous n'avons pas cette nature angélique, des tabi'a, des malaïka, qui, la ya'asuna Allah ma amrahum, qui ne savent pas c'est quoi le péché, qui n'ont pas de pulsion de shahawat, d'envie. Non, nous sommes les créatures qui ont le plus d'envie. Le plus de, comme il dit Ben Zayn, il dit masti. Masti, c'est comment il peut dire en... Ben, ça demande qui ça peut traduire. Masti, comment il traduit? Le plus dans l'envie déconner. L'envie fait, envie découvrir. À découverte. D'accord? Surtout dans le domaine de l'adultère, du zina, et ainsi de suite. La masti, toute l'époque, ça. Que les jeunes, que les moins jeunes, qu'on devient vieux. A, bref, cette personne-là, l'être humain, il a ses shahawat, pulsions. Les pulsions, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour pulsions sexuelles, pour obtenir, pour gagner, pour posséder, tout ça c'est des pulsions, c'est des shahawat. Alors cette personne-là, s'il reste confiné, sans poisson, dans un environnement protégé, c'est bien, mais est-ce qu'il connaît le danger de la vie? Le vrai jeune qui grandit de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui sait dire non. Celui qui sait dire non. Quand on était en terminale, elle, on l'avait pris en philosophie, que Alain, c'est Alain, c'est qui? C'est pas Flelou, non. C'est pas Alain Roche. Vous n'avez pas connu Alain Roche, laisse tomber. Quel Alain, ça? C'est pas Alain Duhamel non plus. Alain, c'était un grand philosophe français. Il avait dit une phrase très simple, en trois mots, philosophie, c'est dire non. Nous, on dirait que la taqwa, c'est dire non. C'est savoir dire non quand le péché nous est proposé. Et que le péché est à portée de main et qu'on peut le faire sans problème, sans prise de tête, sans conséquence directe de la part des hommes. Et que là, la personne dit non. C'est ce jeune-là qui vit avec sa communauté, avec ses amis, ses frères et sœurs et ainsi de suite, qui reste dans le droit chemin et qui face au péché, c'est baisser le regard. C'est contrôler ses oreilles, contrôler sa main, contrôler ses pieds. Il ne va pas n'importe où, il ne dit pas n'importe quoi, il ne regarde pas n'importe quoi, il ne mange pas n'importe quoi, il n'écoute pas n'importe quoi et ainsi de suite. Ça, c'est magnifique, ça. C'est vraiment ça le sacrifice qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. Je vais expliquer ça aux élèves à la madrasa. Dites-moi, les anges, est-ce qu'ils ne font pas plus de bonnes actions que nous? La question ne se pose même pas. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Bien sûr que oui. L'ange qui est des anges qui ont été créés depuis qu'Allah s'est établi sur le trône et qui reste en sijda jusqu'au qiyam et qui après le souffle de la trompe dit « Oh Allah, pardon, nous ne t'avons pas adoré comme tu le méritais. » Sijda toute la création. Alors que nous, on fait un petit peu, on désobéit. Donc, si on compare les bonnes œuvres, impossible de se comparer aux malaïka. Maintenant, pourquoi est-ce que les savants, c'est une masla magnifique qu'on trouve dans les kutub aqidah, en tant qu'aqidah tahawi, il dit que l'homme peut atteindre un degré supérieur au malaïka. Comment ça? L'homme pieux qui fait, qui reste dans les bonnes œuvres, dans les bonnes actions, et qui face au péché, c'est toujours dire non. Parce que lui, il a été éprouvé par les charawat, par les pulsions, par le désir de faire des péchés. Ce que les anges n'ont pas. Et face à cette tentation. Et là, vous voyez, toutes ces catégories de personnes, ça se rejoint. Parce qu'on va voir, là on a vu le bon comportement, on va voir dans la cinquième catégorie, parmi ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, c'est « Rajulun da'athum ra'atun ». دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Cet homme qui reçoit les avances d'une belle, jeune et célèbre femme, d'accord, qui lui fait des avances, qui drague le monsieur, et que cette personne-là a les atouts physiques, il est beau lui aussi, il est jeune, il a tout ce qu'il faut, mais il dit que non, je refuse. إني أخاف الله, j'ai la crainte d'Allah. Et les savants donnent cette explication de cette catégorie. Ils disent que c'est quelqu'un qui reçoit les avances d'une femme qui est parfaite. C'est pas que la femme était une... Un élève dit moi ça aujourd'hui. Ajib, comment ils savent des choses comme ça à 10 ans. C'est pas une cougar. Parce qu'il a, il m'a cassé, hein. Maman, 10 ans, elle m'a dit une cougar. Comment ils savent ça? Moi, j'ai appris le mot il y a quelque temps. C'est pas vrai. Ils apprennent vite, hein, nos jeunes. Hein? Après, ils disent, ben, maman, ils apprennent pas. Ils apprennent. Vous connaissez quand il faut apprendre. C'est pas comme si une vieille femme, voilà, 70 ans, il dit « Riyad, viens où mon coco ?» Là, Riyad, prends, ça va, tout même pieds nus court. D'accord ? Non. C'est une jeune. Elle est belle. « That man sob », ça c'est important. C'est pas une, excusez-moi, c'est pas une traînée, c'est pas quelqu'un qui drague tout le monde à la rue. C'est quelqu'un qui a une certaine notoriété de la société. Quelqu'un d'important. Donc tout ça, ça augmente le degré, parce qu'on sait que le professeur m'a dit que quand vous choisissez une femme, il faut regarder sa piété, la beauté, regarder la famille, tout ça c'est des critères. Là, tous les critères sont réunis, sauf la taqwa bien sûr. Bah, si demande à ça, c'est qu'il n'a pas trop la tête sur les épaules, d'accord. Mais les autres conditions sont réunies, elle est belle, elle est riche, elle est d'une haute lignée, d'accord. Et vous, vous êtes pareil. Et vous avez ce jeune ou cette personne peut faire le haram, le zina, mais il se retient par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Cette action-là est tellement appréciée par Allah que l'homme se retrouvera le jour de Qiyamah sous l'ombre du trône d'Allah Rabbul Izza. Tout comme cette personne qui était, on avait vu la dernière fois, enfermée dans la grotte et qui dit « Oh Allah, j'étais amoureux de quelqu'un le jour où j'ai pu faire le haram avec cette personne, j'ai eu la crainte d'Allah et je me suis retenu. » Cette personne a eu la nusrat d'Allah dans ce dunya. Et lui, il a la nusra d'Allah, le jour de Qiyamah. Certainement, ils auront la même nusra dans ce dunya et dans le akhira. Et comme on avait dit, ils n'ont pas fait une bonne action énorme. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait amalun salih. Ils n'ont pas accompli une bonne œuvre. Non, ils se sont éloignés d'un haram. Waouh! C'est pas qu'il a construit quelque chose, il a donné quelque chose. Non, c'est que face au haram, il a dit non. Combien de temps il prend pour dire non? Une seconde, il dit non. Ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas partie de ces gens, comme l'expression moderne, je nage pas dans ces eaux-là. Mais ça, c'est pour d'autres choses seulement, d'accord? Il refuse. Ce refus-là, ça, c'est une preuve de iman. Parce qu'il est tellement facile d'avoir un plaisir immédiat. C'est vraiment ça, l'ikhtibar, l'épreuve, mes chers frères. Choisir entre le plaisir immédiat, tout de suite, mais qui est tellement limité. On est un peu trop jeune ici, sinon on aurait donné d'autres exemples. Il y avait un écrivain français, Maupassant. Donc, il avait écrit, on avait appris ça en lettres, toujours en terminale. Il avait écrit un ouvrage à propos des relations homme-femme et tout. Il dit que comment ça prend du temps pour draguer une femme et tout. Au moment de faire l'adultère, d'accord, quelques minutes après, il y a un remords qui envahit vos cœurs. Il y a quelque chose d'un sentiment d'inaccompli, d'insatisfaction. Et là, on se rend compte que tout ça, c'était qu'un plaisir temporaire. Ça, c'est un grand écrivain qui dit, hein. Et dans les versets du Coran, à travers les hadiths, nous retrouvons ce concept que les plaisirs de ce dunya sont courts et éphémères. Donc, j'ai le choix entre ce plaisir qui est court et éphémère, ou alors le contentement d'Allah Azza wa Jal. Et le plaisir éternel de le Jannah. Et ce schéma-là, mes chers frères, ce schéma, ce mécanisme, on le retrouve dans les piliers de l'islam. On le retrouve dans le saum, dans le jeûne. Vous êtes en état de jeûne, c'est bientôt. Vous sortez de l'école, du lycée, il est midi 15, vous passez près d'un bar, vous voyez un coca au frigidaire. Alors, si vous dites que, ah non, un peu plus là, je débouche le coca, je bois, et puis je suis content, je rote deux coups, et puis c'est content. Quel plaisir vous avez quand le coca glacé descend dans la gorge, ça picote. Madja, comme il dit. Un plaisir. Combien de temps est dû, hein? Quelques secondes. Au bout de la 10e gorgée, votre ventre est gonflé avec gaz et tout. Vous pouvez même plus finir le... Banana, il boit tout. Mais le plaisir durera le temps que vous allez boire. Et ensuite, les remords. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu désobéir à Allah? Comment j'ai pu écouter mon nefs? J'ai pu écouter mes pulsions. Ça, c'est une caricature de toute la vie. Le saum, c'est pour ça qu'on dit que le carême, le ramadan, c'est le meilleur ikhtibar, c'est le meilleur entraînement, tamrin, pour le croyant, pour toute sa vie. C'est-à-dire que tu as le plaisir immédiat, mais tu refuses ce plaisir immédiat parce que tu recherches le contentement, l'agrément d'Allah Azza wa Jal. C'est pareil face à cette jeune femme, face à cette proposition, je ne sais pas, madame pré-banquet, ou alors face à une, quelque chose, une bouchée de nourriture qui est haram, et ainsi de suite, et chacun connaît ses faiblesses, chacun connaît ses péchés. Donc mes chers frères, on a vu, on a essayé de retravailler un petit peu cette catégorie que c'est ce jeune qui vit normalement, qui accomplit de bonnes œuvres, et qui donc est sujet à toute fitna, mais qui sait s'en éloigner, et qui adopte une ligne de conduite réglo, où il ne commet aucune erreur, bi'idhnillah. Et s'il y a un manquement, il se rattrape tout de suite, il revient vers Allah Azza wa Jal. Cette personne-là est aimée par Allah Azza wa Jal. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là pour ce soir. On a 31 minutes, je pense, c'est suffisant, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, on va continuer avec cet homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Je pense qu'on va essayer d'avancer un peu plus vite. Également, bon, là, on a vu aujourd'hui la personne qui refuse les avances d'une femme. On ne va pas revoir parce que je pense qu'on a. Le but, c'était de résumer, bien sûr. Et petite parenthèse, hein, petite parenthèse, avec cet exemple-là, les savants disent, voyez, c'est quoi le respect de la femme? Respecter la femme dans l'islam, c'est également ne pas considérer son corps comme un objet. C'est pas que je suis séduit par la, quand qu'elle. Il faut dire clairement, quand quelqu'un a le coup de foudre, il a vu une superbe tantine dans la rue, il a flashé sur cette tantine. Est-ce qu'il est séduit par son intelligence, sa beauté intérieure ou alors tout ce qu'on voit qui est bien moulé, qui est apparent? C'est bien clair, c'est la beauté physique. Donc je considère cette femme-là comme un objet sexuel, on le dit clairement. Et donc après avoir fait ce qu'il y a à faire, ben, quand je vois une bombasse encore plus impressionnante, ben, il a celle-là, il s'en prend l'autre. C'est pas jouer avec les gens, ça? Est-ce que c'est pas jouer avec le cœur? Alors que, subhanallah, dans les liens du nikah, subhanallah, le respect qu'il y a, l'engagement moral qu'il y a, l'amour qu'on doit donner à la femme, et ainsi de suite, tout ce qu'on a vu à travers, tout ce qu'on connaît à travers la vie du prophète avec sa femme, ça c'est le respect de la femme. C'est pas que quelqu'un, il voit une jolie femme et il va essayer de l'attraper, et quand il a déjà utilisé, quand il a puisé ce qu'il voulait puiser de cette femme, il va prendre une note, il l'a lâché, casser son cœur, lâché, et ainsi de suite. Ça, c'est le règne animal, ça. Ça, c'est l'accouplement qu'il y a dans la jungle, ça. Ça, c'est l'accouplement dans la savane. On n'est pas comme ça. Le respect de la femme, c'est quand on aime quelqu'un, on aime pour son physique, on aime pour son intérieur, pour son intelligence, pour son comportement, et c'est un pacte, l'union qu'il y a, et l'engagement de fidélité avec cette personne. Quand quelqu'un est marié avec une femme et qu'il va voir ailleurs, est-ce que c'est du respect, ça? Même si en rentrant à la maison, il amène des fleurs, ou il amène des chocolats, ou il amène machin. Si madame ne veut pas chocolat, amène ici, il mange. Hein. Il est gentil, il a le meilleur comportement, et ainsi de suite. C'est très bien. Il va l'appeler ma chérie, mon cœur, ainsi de suite. Et par d'ailleurs, collègue du bureau, tac, fini, hein, tous les samedis, tous les vendredis, il connaît qu'il a rendez-vous avec sa collègue, sa copine, sa voisine, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça, c'est respecter sa femme? Non. Non. Et le prophète dit, « Wa'ashiruhun nabil ma'ruf. » Est-ce que ça, c'est « Wa'ashiruhun nabil ma'ruf » Du tout. Ça, c'est « khiyana ». C'est « zina », bien sûr. Avant tout, c'est l'adultère. Mais en plus, c'est un manque de respect, ensuite, un manque de respect envers son épouse. De ne pas respecter l'engagement moral. Parce que qui dit engagement moral dit fidélité, dialogue, concertation et union des cœurs. À travers cet exemple, mes chers frères, on voit également comment, subhanallah, notre dîn nous enseigne également le respect donc de la femme. Donc la prochaine fois, on va donc continuer, inshallah, avec cet homme qui donne la sadaqa avec une telle sincérité que personne ne sait ce qu'il a à donner. Et enfin, cette personne qui s'isole et qui pense à Allah et qui a des larmes qui coulent de ses yeux par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah Rabbul Izzah protège nos jeunes et leur accorde, hein, la patience dans les bonnes œuvres, les trois catégories de patience, al-sabr fi ta'a, la patience dans l'accomplissement des bonnes œuvres, as-sabru 'anil ma'siyah, la patience face aux péchés, aux tentations, et as-sabru fil bala, et la patience dans toutes les difficultés, toutes les épreuves de la vie. Chers frères, quand nous voyons le nombre de péchés qu'il y a, le nombre de fitna à laquelle nous sommes exposés, et que nous voyons parfois comment on perd du temps de la communauté à se tirer dans les pattes. Un groupe qui maille pas avec l'autre, une personne qui critique l'autre, qui essaie de casser le travail de l'autre, on se rend compte qu'on est en train de perdre notre temps. Combien de personnes nous voyons, nous entendons, nous lisons, qui passent leur temps à critiquer, tel savant dit ça, tel cheikh il a dit ça, c'est n'importe quoi, telle personne lui il est comme ça, sa croyance, son akida, c'est pas bon. Ah, qu'on arrête de perdre notre temps. Qu'on arrête de... Quand on voit un jeune qui commence à parler d'un ancien, d'accord, un ancien grand savant, il dit que, est-ce que toi, toute ta vie, est-ce que tu penses que tu pourras faire un poisson, tu arriveras à la cheville de ce grand savant? Tu n'es même pas à sa cheville, tu es là en train de critiquer, apporter un jugement, lui il est comme ça, tel alim a dit de lui telle chose. Il faut arrêter, Shaitan est en train de jouer avec nous, de nous faire perdre notre temps, alors qu'il faut se concentrer sur les problèmes de société, les problèmes dans les couples, les problèmes avec les jeunes, les problèmes avec les personnes âgées. De se concentrer sur toutes ces problématiques et vraiment d'être attentif à tout ce qui se passe autour de nous pour essayer d'apporter ce qu'on peut apporter. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager à nos meilleurs et à nos jazakumullah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah.